Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Amélie. Vous la connaissez peut-être sous son pseudo Instagram Tiganette, qui correspond aussi au nom de sa marque de vêtements d'allaitement, Tiganette Création. J'ai découvert personnellement le profil d'Amélie d'abord au travers de ses produits et de sa marque, et ensuite au travers de son compte personnel, sur lequel elle s'exprime, et bien en fait comme elle a envie. Bref, comme vous le comprenez, j'ai tout de suite accroché à sa personnalité, et aussi au naturel avec lequel elle parle des injonctions qu'elle peut rencontrer dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, dans sa vie de chef d'entreprise. Et c'est ce qui a donné l'envie de cet épisode, dans lequel nous allons parler de parentalité, de maternité, d'allaitement aussi, et bien sûr d'injonctions. Le premier sujet abordé fait suite à un post qu'elle avait rédigé concernant les injonctions au maquillage et les injonctions à ne pas se maquiller. Je vous laisse écouter sa réponse et je vous souhaite une belle écoute.
Oui, dernièrement, j'avais reçu un petit message qui partait d'une très bonne intention pour me dire « Mais t'as pas besoin de tout ça, pourquoi tu te maquilles? T'es tellement belle au naturel !» Et en fait, ok, on peut se trouver beau au naturel. Moi, j'ai aucun problème avec mon visage au réveil. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pas de problème non plus pour me montrer avec parfois le maquillage qui coule, avec la tête encore du matin et tout. C'est vraiment pas un souci, mais j'adore me maquiller. C'est quelque chose que je maîtrise très bien parce que je me maquille depuis toujours. Et j'ai aussi une histoire qui a évolué avec ça, parce que pour le coup, adolescente et jeune adulte, j'aurais jamais pu assumer ma tête sans maquillage, parce que pour moi, ma vraie tête, c'était maquillée, mais vraiment ostentatoire. À 18 ans, je me maquillais le matin comme si je partais en soirée. Et c'était pas un problème pour moi non plus. Et ce que les gens en pensaient, je m'en foutais littéralement. Et donc maintenant, ben, je me maquille par plaisir, parce que j'aime ça, parce que j'aime aussi jouer avec mon image, tout simplement, comme j'aime poster des photos sans filtre et j'aime retravailler avec Photoshop des photos pour que ce soit hyper modèle, mannequin, enfin tu vois le truc. Et j'ai pas de problème avec ça, et j'aime pas qu'on m'explique, ou comme quand je poste une photo maquillée et qu'on me dit « Ah, t'es quand même mieux au naturel ». Mais je t'ai pas demandé ton avis sur est-ce que je suis mieux au naturel, est-ce que j'ai le droit de me maquiller, pas de me maquiller, je fais ce que je veux en fait. Et donc je voudrais que les gens comprennent qu'on est tous libres de faire absolument ce qu'on veut de notre corps, de notre visage, de notre style vestimentaire. En fait, ça nous appartient, ça appartient à personne d'autre.
C'est super intéressant ce que tu dis, parce que bon, il y a plein de choses. Il y a déjà le côté outil pour s'accepter soi, si ouais. Je comprends bien, au moment de l'adolescence. Donc ça, c'est déjà un super levier. Alors, je vais poser une question qui est un petit peu presque bateau dans mon podcast, mais pour le coup, est-ce que ça t'a aidé à t'accepter parce que c'était tout ton rapport à ton corps qui était ce qu'il était, ou est-ce que c'est parce que tu subissais des injonctions de beauté de l'extérieur, ou est-ce que c'est un mélange des deux peut-être ?
Je saurais pas trop dire. En fait, déjà adolescente, j'avais pas forcément de difficulté à m'accepter ou quoi, mais je me trouvais tellement mieux maquillée qu'en gros, dehors, il fallait que je sois la meilleure version de moi-même, tu vois. Et c'est comme si tu sais que ça va, tu vas pas choquer les gens si tu vas à la boulangerie sans maquillage, mais que quand t'es maquillée, t'es quand même vachement mieux. Et bah, moi, je voulais être vachement mieux tout le temps. Et donc, pour aller chercher du pain, fallait que je me maquille, quoi. Et ça, en fait, ça m'est passé réellement à la naissance de mon premier enfant, parce qu'il y a un moment où, on est déjà de base dans notre famille des gens pas très à l'heure, mais quand tu as des enfants, que du coup il faut être à l'heure pour les préparer, pour aller au boulot, qu'après tu as l'école qui te dit nous, 8h32, on est fermé. Bah, en fait, s'il y a un truc que tu zappes le matin, c'est le maquillage. Hein, tu vois, tu pars comme tu t'es levé, tu sautes dans un truc, putain, en retard, et tu pars. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'accepter aussi sans maquillage aux yeux des gens, tu vois. Moi, je m'acceptais sans maquillage, j'ai pas de problème avec ça. Mais devant les gens, je préférais quand même être maquillée. Maintenant, je m'en fous royalement et je fais des stories devant 70 000 personnes avec ma tête déphasée en disant « Oh là, ce matin, c'est vraiment dur quand même. » Et je m'en fous, vraiment. C'est pas un problème pour moi.
Ah, donc, pour le coup, en fait, c'est le côté… Alors, je te rejoins totalement sur l'aspect… Avant, on se prépare, avant les enfants, on se prépare parce qu'on gère notre temps tout seul. Et puis après, bah, le maquillage, parfois la douche.
Le brossage de dents, bon, ça attendra tout à l'heure, c'est pas grave, allez, on va à l'école, c'est pas
c'est grave. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, bon, voilà, on va prendre le temps ou pas, tu relativises beaucoup plus de choses.
Ah ouais, et plus t'as d'enfants, mieux c'est.
Ah oui?
Ouais. Bah, avec 3 enfants, tu vois, le matin, c'est un peu chronométré. Si tu arrives déjà à tous les préparer, qu'ils aient mangé, qu'ils soient habillés pour partir, c'est pas mal. Donc après, si toi, t'es pas habillé, pas coiffé, tout, c'est pas grave. Ça devient optionnel, tu vois.
C'est limite, c'est normal, en fait, parce que t'as tout donné pour les enfants. Et voilà, et il reste toi. Et pour le coup, petite question. Est-ce que ce côté... parce que c'est une question, je pense, qui va pouvoir interpeller certaines personnes et certaines mamans. Est-ce que ce côté, mais tu vois, pour le coup, tu t'organises pour tes enfants et toi, tu t'oublies, entre guillemets. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Est-ce que c'est un sentiment que tu as eu? Est-ce que c'est un sentiment que tu as, des fois?
Oui, complètement. Il y a des jours où, en fait, je me dis, là, sur une journée complète, notamment les journées où on a les enfants, parce que comme on travaille à la maison, c'est vrai qu'on est assez quand même libre d'organiser notre temps différemment. Les jours où il y a école-crèche, tu es déposé à l'école et à la crèche complètement en vrac, mais après tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te prépares, machin, et après tu commences ta journée de boulot. Mais c'est pas l'organisation lambda d'une famille. Mais il y a des jours, quand on les a à la maison non-stop, je me dis, là, de toute la journée, j'ai pas eu une seule minute où je me suis préoccupée de à quoi je ressemble, est-ce que je peux prendre une douche, me brosser les dents, juste me maquiller 2 secondes. Non, t'es dans la demande constante, surtout que mes enfants sont particulièrement dans la demande. Donc oui, ça arrive quand même relativement souvent de s'oublier parce qu'on est maman.
Non, mais je te rejoins. Et maman, et j'ai envie de te dire, même maman comme papa, moi, je sais que des fois, le simple fait d'aller aux toilettes, c'est un défi hein, dans la journée. Donc, ça peut être très compliqué.
Je pense ça fait 5 ans que je n'ai pas été aux toilettes seule, en fait. Parce que oui, il y a un espèce de truc... Enfin, je pense que c'est dans toutes les familles. Il y a un espèce de truc qui se fait que tous les enfants sont en train de jouer à un truc. Tu passes la porte des toilettes, il y en a forcément un qui avait besoin de toi, là, tout de suite, maintenant. Ça ne peut pas attendre 30 secondes de plus, c'est maintenant. Et donc, je me retrouve toujours avec quelqu'un dans les toilettes. Alors que mon mari, non. Il a réussi à imposer un truc qui fait que je suis aux toilettes, on me laisse tranquille. Aussi longtemps que ça dure, on me laisse tranquille. Moi, je ne me fais pas du tout respecter là-dessus. Je n'ai rien à faire. Je rentre dans les toilettes, j'en ai un, voire deux qui me suivent.
Non, mais je te comprends, nous, en tout cas personnellement c'est un peu délicat des fois. T'as l'impression qu'il faut pas te lâcher, puis il y a aussi le moment aussi où c'est moi aussi je vais y aller. Elle te disait rien, tu dis je vais aux toilettes, ah non c'est moi, bah,
super, il y en a qu'un.
Ok, comment on fait? Tu disais, tu parlais au tout début des avis non sollicités sur tes photos. Ça c'est un point que j'entends mais partout, que ce soit la parentalité, que ce soit les sujets de sexisme, les sujets de racisme, de tous les moins-ismes, en fait, où on vient comme ça donner des avis non sollicités. Alors, j'ai envie de te demander 2 choses. On va commencer par la première. La première, c'est est-ce que tu penses que, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est un petit peu, entre guillemets, la règle de venir donner son avis alors qu'on n'a rien demandé?
Ouais, je pense que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux, je veux dire, les utilisateurs dont ce n'est pas le métier, donc qui sont là pour regarder un peu ce qui s'y passe, prennent ça comme un truc logique. Oui, mais tu t'exposes, donc on peut donner notre avis, et puis c'est la liberté d'expression. Je suis absolument pas d'accord avec ce truc. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que les réseaux sociaux, c'est une espèce de vitrine où il y a plein de trucs. Et que tu vas regarder ce qui te plaît. Et que donc, si tu tombes sur quelque chose qui te plaît pas, juste tu passes à autre chose, tu vois. Et t'as pas besoin de dire pourquoi ça te plaît pas et comment il faudrait être pour que ça te plaise. Ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est pas la place. Enfin, il n'y a pas de place pour ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est très clair. Mais c'est un truc que je subis depuis le début de mon compte Insta, enfin depuis que j'ai commencé à avoir un peu d'abonnés, parce qu'en fait les gens pensent qu'ils te connaissent, et du coup comme ta meilleure copine se permettrait de te dire ta coupe c'est pas terrible quand même, et bah j'ai 70 000 meilleures copines qui se permettent de me dire que ma coupe c'est quand même pas terrible et que j'étais mieux en brune et que mais en fait moi je me plais comme ça, j'ai pas besoin de savoir si toi ça te plaît pas. Alors je suis OK que après on va me dire en fait tu veux juste des compliments et on peut rien te dire. Non, si tu as envie de me faire un compliment parce que ça te fait plaisir de me le dire et tout ça, il n'y a pas de problème. Moi j'accepte, ça me flatte, je suis très contente quand on me dit que on aime bien comment je suis habillée, qu'on aime bien mon maquillage, je suis très contente. Mais si c'est pour me dire quelque chose de désagréable, je pars du principe que tu le dirais pas à ta boulangère, genre bonjour, ah oh, vous êtes bien moche ce matin, vous avez mal dormi peut-être? Bah tu me le dis pas non plus. Tu vois, et donc moi j'aime bien qu'on garde juste le positif des choses. Donc si tu tombes sur une photo d'une nana que tu trouves canon, ben vas-y, mets-lui un petit commentaire pour lui dire franchement t'es canon sur cette photo. Moi je le fais, c'est ce que je fais quand je suis sur les réseaux sociaux. Je fais des compliments, je parle des choses qui m'animent et qui me plaisent. Mais s'il y a des choses qui me plaisent pas, et ça m'arrive souvent, ça m'arrive de tomber soit dans le fil de recherche sur des comptes qui partagent pas du tout mes valeurs, ou eh ben juste je vais pas m'abonner et puis je vais partir, enfin je vais aller faire autre chose. Et puis si j'étais abonnée à quelqu'un qui finalement change de ligne de conduite, où je me rends compte que ça me plaît plus, je me désabonne. Mais je vais pas non plus aller lui dire pourquoi je me désabonne, parce que ça c'est un truc récurrent. Alors je t'aimais beaucoup, mais là franchement t'as changé. Moi je te préférais avant, bah je pars. Mais pars par la petite porte, il n'y a pas besoin de faire des esclandres ou quoi. Pour moi, le changement, c'est la vie et tout le monde change. Encore heureux que je ne suis pas comme j'étais à 18 ans et j'espère qu'à 30, je ne serai pas comme je suis aujourd'hui. Enfin, on change, quoi, c'est comme ça. Donc j'aime bien juste qu'on reste sur les trucs positifs, sur ce qui nous plaît et qu'on ne se sente pas obligé de donner des argumentaires sur pourquoi je t'aime plus, pourquoi je te préférais avant, que t'es moche aujourd'hui, que t'es mieux au naturel, et quand t'es au naturel, que t'as l'air vachement fatigué, ça va quoi, en fait, quoi qu'il arrive, ça plaît jamais, donc autant faire ce qui nous plaît.
Non, mais je peux que te rejoindre. C'est sûr que de toute façon, sur les réseaux sociaux, donc moi j'y suis depuis assez récemment, mais en tout cas en observation, j'ai constaté différentes choses. Il y a des comptes vitrines, comme tu dis, dont tu fais partie, et c'est super intéressant le mot vitrine, je trouve. Parce que est-ce que dans la vraie vie, si tu passes devant une vitrine d'un magasin et où tu te dis, oh, c'est moche,
Mais tu rentres pas.
est-ce que tu vas rentrer? Est-ce que tu vas rentrer pour aller dire aux gens, est-ce que tu mets en vitrine là? Mais c'est
C'est moche,
moche.
hein. Ouais, non, mais ouais.
Tu
C'est
le fais
exactement
pas.
ça. Et ben, Insta,
Tu le
c'est
fais pas.
exactement pareil. Tu passes sur le fil, tu dis, bon, pff, non, j'ai pas envie. Et ben, tu passes à un autre compte.
Et surtout qu'il y a des comptes, justement, où c'est fait pour qu'en commentaire, ça se développe, ça parle de différents sujets. Hein. Je sais que ça peut être des sujets féministes comme des sujets de mode. Enfin, moi, j'ai vu de tout. Hein. Il y a des comptes exprès pour ça, donc autant y aller si on a besoin de donner son avis alors qu'on le demande pas. Moi, je pars un principe simple, c'est que à partir du moment où on me demande pas, ou dans le poste, ou dans le corps du poste, il n'y a pas écrit
Et
qu'en
toi, qu'est-ce que
penses-tu
t'en
ou qu'en
penses?
pensez-vous, soit ça me plaît et je mets un avis ou je mets des petites émoticônes, machin, mais à partir du moment où il y a un truc qui me choque, déjà, un, tu likes pas, hein, parce que ça c'est une chose, et puis deux, après tu passes ton chemin, on est d'accord.
Bah ouais,
Et
ça me
sur ton
paraît être la
compte aussi,
base.
mais oui, et pourtant. Il y a un truc qui marque, c'est que, alors, pour celles et ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore Amélie et sa marque
Il y en a
Tziganet,
beaucoup quand même, il y en a beaucoup.
Tziganet Création, donc qui crée des vêtements d'allaitement qui sont canons. Est-ce que sur ce sujet-là, tu vois, sur le sujet de l'allaitement, comment ça se passe? Parce que Bon, moi, forcément, les gens qui nous écoutent connaissent ma position, connaissent mon engagement sur le sujet. Ceux qui te suivent connaissent le tien. Mais mine de rien, comment ça se passe quand tu exposes comme ça? Parce que moi, je trouve que tu poses des photos qui sont, je trouve, magnifiques, mais parce que je trouve l'allaitement magnifique de toute façon, peu importe la femme qui le fait. Mais comment ça se passe comme ça? Est-ce que c'est pas vraiment un terrain miné quand même?
De moins en moins. Alors, je pense que ces dernières années, on a fait un travail quand même qui a porté ses fruits parce que, en tout cas, moi, de mon côté, je reçois plus du tout de messages pour me dire c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, montrer ces nichons comme ça, mais en fait, t'es une salope. Je reçois plus du tout ce genre de truc alors que je recevais des messages hyper virulents quand j'étais moins suivie. Quand j'avais 4000, 5000 abonnés, en fait, les gens se permettaient encore d'essayer comme. Enfin. Moi, je le prends comme ça, je l'interprète comme ça, mais comme si ils allaient essayer de me faire changer d'avis sur le truc, tu vois. Et donc, ils me postaient des insultes sous mes photos d'allaitement, où ils me disaient, c'est vraiment dégueulasse, tu fais de l'inceste avec tes enfants, sur des photos
Oh là là.
où ma fille avait 4 mois. Hein, on ne parle pas d'allaiter un enfant grand, et du coup, c'est pas encore dans les mœurs, donc les gens ne sont pas encore raccord là-dessus. Non, non, on parle vraiment d'un petit bébé, et on me disait, c'est vraiment dégueulasse. Ou alors, tu mélanges sexualité et allaitement parce qu'on me voyait en sous-vêtements sur les photos. En fait, c'est juste que je dors en sous-vêtements, je dors avec mon enfant, et si je prends une photo d'allaitement dans mon lit, je suis en sous-vêtements. Ça ne veut pas dire que je mélange sexualité et allaitement. Enfin bref. Et tout ça, je le reçois plus du tout. Alors, j'aime à penser qu'on a bien travaillé et que du coup, on est en train de normaliser l'allaitement. Pas normaliser dans le sens que tout le monde devrait allaiter, parce que ça, c'est encore une autre histoire et c'est propre à chacun, mais normaliser dans le fait que allaiter un enfant, c'est quelque chose de normal et que du coup, tu n'as pas à y voir de mal parce que c'est normal. Et je pense en 4 ans d'Instagram et de photos d'allaitement, il y a eu quand même une évolution là-dessus. Et on en voit aussi beaucoup plus. C'est vrai que moi, il y a 4 ans, j'étais dans les premières à oser mettre des photos d'allaitement, à oser me montrer sans filtre. Enfin, c'était encore un truc, ah, oh, t'allaites, c'est bien, mais fais-le chez toi quand même. Faudrait pas se montrer devant les gens. Et j'ai l'impression que ça a changé. Et tu vois, quand je tombe sur des petits comptes pas suivis, qui sont en public, mais tu vois, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou quoi, et qui osent mettre des photos d'allaitement, je me dis, ouais, en fait, on a fait du bon boulot et c'est devenu normal d'immortaliser ces moments-là. Et ça y est, ça commence à être perçu enfin comme si c'était juste un enfant qui est nourri au sein, quoi, et rien d'autre.
Ah, mais complètement. Alors. Autant, je me méfie toujours, tu sais, au niveau de la sphère qu'on a autour de nous, parce que
ouais.
Forcément aussi, tu développes un cercle autour de toi qui correspond à tes valeurs. Donc autant, socialement, ça évolue, mais ça évolue moins vite que ce qu'on voudrait. Mais en effet, c'est super, et je pense que aussi tu as donné la possibilité à des mamans, alors t'es pas la seule, hein, y a d'autres personnes qui développent ce genre de produits, mais donner la possibilité à des mamans d'allaiter aussi dans des conditions qui, elles, les mettent à l'aise.
Ouais.
Parce que t'as des mamans qui, à un moment, quand l'enfant a besoin d'allaiter en public, t'as des mamans qui n'hésitent pas à sortir leur sein, t'as des mamans qui aimeraient que ce soit plus discret, et ça, c'est propre à chacun. Et c'est super aussi, je pense que, aussi par ce travail-là, tu participes.
Ouais.
Et tu disais un truc super intéressant sur le fait qu'on te disait tu mélanges sexe et allaitement en te mettant en sous-vêtements. Et pourtant, le succès des photos de papa qui portent leur bébé en caleçon, on leur dit rien.
Ouais, absolument.
Qu'est-ce que t'en penses?
Mais comme on leur dit rien quand ils sont sur une photo de torse nu, alors que nous, on est bannis d'Instagram. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc assez dingue. Donc moi, il faut savoir que je suis la reine du shadowban. Ça fait, je crois, 4 fois que je me fais bannir d'Insta parce que j'ai mis une photo soit où on voit un enfant torse nu. On parle d'enfant torse nu en maillot de bain à la plage. Hein. On ne parle pas d'exposition d'enfant torse nu ou dans le bain. Quoi. On parle vraiment d'enfant à la plage. Soit parce que sur mes photos d'allaitement, on voit un peu trop de peau. Donc, faut savoir que la plupart du temps, c'est quand même des robots qui analysent les photos et qui disent « clac, ça sort » parce que ça ne correspond pas aux règles de vie d'Instagram. Bon, bah ok, donc tu peux rien faire. Mais des fois, c'est aussi des gens qui signalent les photos comme contenu inapproprié ou nudité ou tout ça. Et Je trouve ça dingue parce que pour le coup, tu vas sur le compte de Kim Kardashian qui est le cul à l'air sur toutes ses photos. Ça, jamais ça va être supprimé parce que ça, c'est beaucoup d'argent. Mais toi qui es rien, la censure, mais bon, c'est le fonctionnement à l'américaine par enfin, pure tradition. Surtout, ne montrons pas de peau, mais en réalité, tout ce qui fait du fric, c'est le porno, mais ça, c'est autre chose. Enfin, bref.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un vaste sujet. Et donc les hommes ne sont pas soumis à ce genre de règles. Et ça paraît normal à tout le monde, alors que finalement, c'est juste un corps, quoi. Et pour moi, c'est rien d'autre qu'un corps. Hein. Que tu sois une femme, un mec, tu montes ton cul, tant que t'es OK avec ça, ça me pose pas de problème. Hein.
Allez, moi, je te rejoins complètement. Pour moi, là, après, j'ai envie de te dire, allaitement ou pas, tu montres ce que tu as envie de montrer ou besoin de montrer. Bien évidemment, après, selon ce que tu montres, faut signaler que c'est un contenu particulier ou pas.
Hein. Ben
oui. Il y a vraiment cette image de la sexualisation du corps, et particulièrement du corps de la femme, quoi.
Ouais. Je me souviens là d'une photo qui a été signalée comme... Alors comment il m'avait écrit ça? En gros, elle a été floutée entièrement avec un petit œil barré sur Insta comme contenu sensible, tu vois. Comme par exemple, on fait ça quand on voit des vidéos avec du sang ou des accouchements, ou tu vois, ça pourrait ne pas convenir à tout le monde. Et c'était une photo où j'allaitais mon bébé. Et ils l'ont mis en contenu sensible. Genre, attention, ça peut heurter la sensibilité des gens. Et je me suis dit, waouh, en fait, à quel moment, en 2020, on peut penser que cette photo peut choquer à un moment parce qu'on voit un bébé au sein. Mais visiblement, quand c'est comme ça, c'est quand même que ça a été signalé. Donc, c'est que probablement, ça a choqué les gens et qu'on a encore un peu de travail à faire.
On parlait allaitement dans mon ancien travail avec une stagiaire. Et elle, en fait, donc elle était jeune, hein, on était plusieurs à parler d'allaitement. Et si tu veux, elle-même, elle me disait, elle devait avoir quoi, 20 ans. Et on était plusieurs comme ça autour de la table. Elle a dit, moi, de toute façon, je peux pas allaiter. Les seins, c'est pour le sexe.
Mais ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un espèce de déclic qu'on a aussi quand on tombe enceinte et qu'on devient maman. Parce que je pense que si tu m'avais demandé à 18-19 ans... déjà si je voulais allaiter j'en sais rien ensuite quand j'ai accouché et pour la première fois et que j'ai voulu allaiter il fallait que je sois cachée, je me sentais très très mal d'allaiter en public, c'était pas du tout concevable pour moi et je me souviens très bien que à la maternité quand je suis remontée en chambre, alors il se trouve que pour notre premier enfant en fait c'était le premier enfant pour tout le monde, c'était le premier enfant dans nos familles, dans nos amis, le premier petit-fils, le premier arrière-petit-fils. Donc, quand je suis retournée en chambre, il y avait déjà toute la famille de mon mari qui m'attendait. Et il a fallu faire la première mise au sein. Et je me souviens de la grand-mère de mon mari qui était là et qui disait « Non, non, mais moi, je veux voir, c'est pas quelque chose qui me dérange. » Alors, moi, ça me dérange profondément. Là, c'est pas possible du tout, va falloir sortir parce que moi, je peux pas déballer la marchandise là devant toute la famille, c'est pas possible. Et c'était inconcevable. Et tu vois, même ça germait dans ma tête au fur et à mesure. Alors, il faut savoir que mon premier allaitement a été un échec. Enfin, ça s'est soldé par un échec au bout d'un mois et demi parce que tout était compliqué. Je ne pouvais pas allaiter en public. Je ne pouvais pas tirer mon lait au boulot et j'ai repris le boulot avant la fin de mon congé maternité, ce qui est illégal, disons-le. Du coup, forcément, un bébé d'un mois et demi, si tu stimules pas, s'il est gardé 9 heures par jour, bah, au bout d'une semaine, c'est fini, quoi. Donc, ça s'est soldé par un échec. Ça a été une énorme frustration pour moi parce que tout simplement, après cet allaitement, a commencé toutes les merdes possibles et inimaginables, de constipation, de colique, d'eczéma, d'allergie aux protéines de lait de vache. La totale, tout ce qui m'a fait dire « Putain, si tu t'étais peut-être un peu accrochée, ton bébé, il irait mieux. » Donc pour ma deuxième, il fallait que je réussisse cet allaitement. C'était primordial, c'était viscéral, il fallait que je m'y accroche. Et entre-temps, ma sœur a eu un bébé qu'elle allaitait. Et qu'elle allaitait partout, tout le temps, naturellement. Et j'ai pris conscience de ça, de qu'est-ce que c'est un vrai allaitement, en regardant ma sœur faire, en me disant « Putain, mais elle ne se pose pas toutes les questions que je me posais. Est-ce que ce serait quand même pas plus simple ? On est en repas de famille, sa gosse, elle pleure, elle la colle au sein, elle ne se pose pas de questions et il n'y a pas de questions à se poser. » Et c'est là que je me suis dit « Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. » Alors, d'une part, il y a ça. Et d'autre part, il y a aussi que je me suis fait opérer des seins. Et ça a joué un rôle hyper important. Et tu vois, ça rejoint aussi ce truc d'injonction au corps, à est-ce que tu t'acceptes, est-ce que tu t'acceptes pas. Moi, je crois que j'ai eu réellement besoin de cette augmentation mammaire pour accepter mon corps et du coup, pour accepter tout ce que je pouvais faire avec. Donc, à l'été, me montrer en maillot, me montrer seins nus devant mon mari. Enfin, tu vois, il y a un truc qui s'est passé, un espèce de déclic, mais aussi parce que cette partie de mon corps, c'était pas juste « Oh, elle a pas beaucoup de seins », c'était une vraie malformation, j'avais pas de seins du tout, j'avais un torse d'homme. Et donc, ça a pas aidé non plus à ce que mon premier allaitement se passe bien parce que j'étais extrêmement complexée de cette partie de mon corps. Pour le coup, je crois que c'était un des seuls complexes que j'avais à l'époque, mais c'était ce manque de poitrine, ce manque de féminité du coup. Peut-être compensé par le maquillage, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une corrélation, j'en sais rien. Et du coup, après avoir eu toutes ces histoires d'allaitement raté, d'avoir vu ma sœur allaiter sans problème et très naturellement, et cette augmentation mammaire, à la naissance de ma deuxième, je me suis dit « Allez, c'est parti ». De toute façon, j'avais pas laissé l'option que cet allaitement ne fonctionne pas. Donc, à la maternité, je me suis dit, démerde-toi, je me suis vraiment renseignée à fond pendant la grossesse, j'étais au taquet, j'étais prête. Je me suis dit, tu demandes d'aide à personne, parce que ça aussi, ça avait été difficile pour mon fils, parce qu'à la maternité, j'avais été très mal orientée. Quand tu leur dis, je voudrais allaiter, qu'on dit, on va mettre des biberons quand même au cas où. Bon, ok, faisons ça. Et tu vois, tu sens que les nanas ne sont pas hyper au clair avec l'allaitement non plus. Donc, je m'étais dit, tu dis rien. Tu ne parles pas d'augmentation mammaire parce qu'elles vont te dire, oh là là, non, vous avez touché vos seins, on arrête d'allaiter. Donc, je m'étais dit, tu te démerdes. Et ça a vachement bien marché, en fait. Juste en me faisant confiance, en faisant confiance à mon bébé, on a commencé l'allaitement dès la naissance, en fait. Elle est sortie de mon ventre, on l'a posée sur moi et tchac, elle a chopé le sein. Je me suis dit, yes, c'est une bonne aventure qui commence. C'est comme ça qu'il faut faire et ça va le faire. Et donc, ça l'a fait en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler d'allaitement, à démocratiser l'allaitement, aussi à dire qu'on peut avoir raté et réussir après. Et qu'on peut changer d'avis. Enfin, voilà, j'ai jamais milité pour l'allaitement parce que ça, c'est un truc. Je pense que c'est bien qu'il y en ait qui le fassent, mais moi, je ne me sens pas du tout les épaules, et d'autant plus que si tu décides de ne pas allaiter ton enfant, je m'en fous éperdument, en fait. C'est pas mon enfant, c'est pas mes choix. Tu peux avoir à peu près 2000 raisons de ne pas vouloir allaiter, et c'est OK. Et moi, si pour mon fils, on m'avait dit « Ah bah si tu allaites, par contre, tu seras obligé d'allaiter en public », j'aurais dit « Ok, donne-moi un biberon, je ne veux pas allaiter ». Et tu vois, il y a plein de trucs qui font que tu peux ne pas être à l'aise avec l'allaitement, que tu n'as pas envie que c'est comme ça, et ça regarde absolument personne. Et heureusement que le lait en poudre existe, parce que sinon, bon nombre d'enfants seraient morts. Donc, en soi, moi, je ne suis pas à diaboliser le biberon ou quoi. J'ai fait mes choix. Je sais que ce qui est meilleur pour mes enfants, c'est mon lait, et donc c'est normal qu'ils aient mon lait. Autant si d'autres mamans font d'autres choix, ça ne me pose pas de problème. Donc je ne suis pas du tout dans le militantisme, je suis juste dans l'accompagnement bienveillant des mamans qui décident d'allaiter, qui ont besoin de conseils, il n'y a pas de problème. Je donne des conseils tant que c'est dans mes compétences et que je maîtrise, pas de souci.
Et on en revient en fait toujours à la même chose, que ce soit le maquillage, que ce soit l'allaitement, machin, c'est chacun fait ses choix. Et merci de garder vos avis non sollicités.
Exactement.
Puisqu'ils ne sont pas sollicités, tu vois. Moi, en tout cas, je te remercie de cette info, parce que tu vois, Je pense que c'est génial que tu parles de ton opération mammaire. Parce que, un, déjà, il y a un énorme tabou sur le sujet de l'allaitement.
Ouais, il y a un énorme guide en fait, personne ne sait. Personne ne
Ouais.
donne son avis, et même les chirurgiens, hein, quand tu leur dis, mais est-ce que je vais pouvoir allaiter? Je sais pas, on verra bien.
Donc.
Et du coup, il y a une espèce de vide autour du sujet, et c'est pour ça que moi, j'en ai jamais fait un truc tabou. J'ai toujours dit, ou quand on me dit, bah, tes seins, ils sont vachement bien pour quelqu'un qui allaite, ils tombent pas, machin. Ah oui, non, mais attends, c'est des faux. C'est aussi, tu vois. Il y a pas du tout de secret là-dessus, et bon nombre de fois, j'ai donné les coordonnées de mon chirurgien parce que il y a plein de mamans qui me disent, bon, bah, c'est super, j'allaitais 3 ans, mais maintenant je supporte plus mon corps, mes seins ont changé, machin. Et il n'y a pas de problème pour moi parce que je sais que cette opération, ça a été le déclic pour beaucoup de choses dans ma vie et que c'est pas juste une histoire de nichon, ça a joué vraiment sur énormément de choses et pas que l'aspect de mon corps, mais tout un cheminement dans ma tête. Et je me dis que si les gens ont besoin de ça, eh ben c'est OK. Si tu vas mieux après, ben il n'y a pas de problème en fait. C'est pas parce que tu fais de la chirurgie esthétique que tu vas devenir Kim Kardashian ou que d'un coup tu tombes dans les Marseillais vs les Ch'tis sur W9, tu vois. Non. La chirurgie, ça peut aussi t'apporter plein de trucs cool et si tu as besoin de ça pour te sentir bien, fais-le. Il n'y a pas de problème, quoi.
J'ai une autre petite question par rapport à tout ce sujet, tu vois, d'injonction, de maternité. Est-ce que vis-à-vis de ça, tu vois, vis-à-vis des injonctions, donc tu as déjà été très clair sur le fait que l'allaitement, ça t'avait. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est aussi que ça t'avait un peu, comment on dit, empowéré, tu vois, enfin, empouvoiré, voilà, empouvoiré. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la maternité? Est-ce que c'est un truc qui t'a fait sentir plus femme, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de voir ta féminité autrement, de voir ta condition de femme autrement, et qu'est-ce que ça a provoqué?
Alors, ma maternité a déclenché énormément de choses. Ça a changé mon caractère. Parce que j'ai toujours été plutôt discrète. Tu vois, on ne va pas faire de vagues. Toujours aller dans le sens de tout le monde. On ne se prend pas la tête. Il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre et tout. Et en fait, en devenant maman, je me suis rendu compte que non, pas du tout. En fait, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis. Et tu vois, c'est comme ça que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai des comportements que je ne me serais jamais permis avant. Par exemple, quelqu'un qui va mal me regarder dans la rue ou qui va me faire une réflexion ou quoi, je vais l'envoyer bouler. Et encore plus si je suis avec mes enfants, parce que je ne veux pas que mes enfants aient l'impression que c'est quelque chose de normal et que tu peux laisser les gens faire ce genre de choses. Tu vois, ou quelqu'un, je sais pas, qui va jeter sa canette dans la rue, je vais aller le voir, je dis non mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Tu ramasses, il y a une poubelle là-bas, t'y vas, je suis pas ta mère, mais je vais t'apprendre la vie. Et ça, avant, jamais je l'aurais fait, jamais. Mais là, maintenant, je me dis, en fait, t'as un devoir, c'est aussi de montrer à tes enfants, déjà qu'on ferme pas sa gueule quand on n'a pas à fermer sa gueule. Et ça, je suis très claire avec eux, que s'il y a des situations qui leur arrivent dans la vie et que ils trouvent ça injuste, ils doivent le dire. On ne se laisse pas faire. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est pas tu vas te défendre en donnant un coup de poing à celui qui t'a poussé ou quoi. Mais je veux qu'ils aient ce sentiment de justice extrême, de non. Si t'arrive un truc, tu dois le dire. Tu ne te laisses pas faire. Il faut que ça sorte. Tu as aussi le droit d'avoir un gros caractère. J'ai une fille qui a un caractère énorme. Ça me casse les pieds un bon nombre de fois parce que dans nos rapports, ça peut être un peu corsé. Mais je sais qu'un jour, ça va lui servir. Et jamais je vais me dire, il faut que je la radoucisse. Il faut que je lui dise que ça, c'est pas possible d'envoyer chier les gens, tu vois, de dire ce que tu penses. Alors c'est chiant hein, parce que des fois dans la rue, elle va dire, oh, cette mamie, elle est moche. Ça, c'est pas possible.
Ah oui, ça c'est compliqué ça.
Mais je vais pas lui dire que on est toujours obligé d'être d'accord avec les gens ou tu vois, c'est aussi leur apprendre à être eux-mêmes, à respecter les autres, mais à garder son propre avis, à avoir le droit de se faire un avis aussi et de pas suivre comme un mouton tout ce qu'on nous dit. Et ça me paraît important aussi et c'est vraiment un truc qui s'est déclenché avec la maternité, tu vois. Ça m'a fait grandir et j'ai eu l'impression de devenir un peu plus adulte à chaque enfant. Alors, je suis pas sûre d'être encore adulte, pour autant, j'aurai pas d'autres enfants, mais j'ai grandi en tout cas.
on est dans quelque chose que moi je défends depuis le début, c'est-à-dire la conscience de soi, de ses besoins et de comment est-ce qu'on les exprime dans un cadre donné. Voilà, c'est juste pour bien souligner le fait que oui, on peut donner la liberté à nos enfants de s'exprimer, mais oui, on donne aussi un cadre, là en l'occurrence le respect d'autrui.
Ouais, c'est ça. Tu dis pas à la mamie qu'elle
on fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est pas un parce que elle est pas fondamentalement moche, c'est ton avis
et qu'elle te l'a pas demandé. On rentre toujours dans ce truc de l'avis non sollicité.
Dans ce truc d'injonction.
Même voilà. Si t'as 3 ans, la mamie ne va pas demander ce que tu pensais de son physique, donc tu lui dis pas qu'elle est moche. Voilà, c'est la base.
Exactement. Et dans cette idée, tu vois, tu as soulevé un point super intéressant. En fait, tu soulèves plein de points super intéressants tout le temps. C'est ce côté, voilà, moi j'apprends ça à mes enfants, j'apprends à ma fille à pas se laisser faire, bon, à ton fils aussi, je suppose. Et justement, vis-à-vis de ça, comment est-ce que tu perçois la différence ou la non-différence d'éducation entre garçons et filles ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une question qui est toujours un peu... Juste pour te rassurer, hein, y a pas de jugement derrière, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans la société qu'on veut faire progresser sur le sexisme, comment est-ce qu'on fait avec les enfants, puisque bah, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode hein, sur le sujet.
Alors, pour tout te dire, je pense réellement que je fais aucune différence dans le fait qu'ils soient garçons et filles. Par contre, ils ne sont pas du tout éduqués pareillement. Parce qu'ils sont foncièrement différents, mais en comportement et en façon d'agir. C'est-à-dire que mon fils est hypersensible, certainement qu'il y a d'autres choses aussi. Enfin bref, c'est tout un package autour de sa personnalité qui fait que je ne peux pas agir avec lui comme j'agis avec mes deux filles. Mais ce n'est pas parce que c'est un garçon, c'est parce qu'il est lui. Et ça, c'est assez important pour moi. Qu'il n'y ait pas de différence, et je pense qu'ils n'ont jamais vu de différence. Enfin, tu vois, j'ai jamais dit à mon fils non, tu peux pas faire ça parce que toi, t'es un garçon quand même, ou à ma fille, ah bah non, tu peux pas faire ça parce que t'es une fille. Mais ils peuvent pas faire les mêmes choses parce qu'il y a des choses qui passent avec l'un qui ne passent pas avec l'autre. Et donc, comme je suis persuadée qu'on n'est pas parents pareils pour le premier, que pour le deuxième, pour le troisième, que pour le douzième, et ben on n'est pas parents pareils parce que nos enfants sont différents, tout simplement. Et c'est pas une question de sexe, c'est une question de caractère et de personnalité. Et donc je suis différente avec chacun parce que je m'adapte à ce qu'il est. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous dans la vie quand on a quelqu'un en face de soi. Tu t'adaptes à ce que l'autre peut recevoir et du coup tu agis en fonction. Bah, avec mes enfants, c'est pareil. Et c'est pas une question de sexe.
On va arriver au bout. Qu'est-ce que tu... si tu devais... passer un message pour le coup, parce que là on a fait quelque chose de très on a parlé bien sûr de parentalité un petit peu et de maternité tout ça, mais si tu devais passer un message voilà sur ce côté injonction qu'on peut avoir tout le temps aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi?
C'est très bateau hein, c'est très classique, mais juste soyez qui vous avez envie d'être. On s'en fout de ce que pensent les autres, de est-ce que c'est correct dans la situation actuelle, tu vois, enfin dans le monde dans lequel on vit, est-ce que on a le droit de se teindre les cheveux en bleu? En fait, si ça te plaît, ouais, t'as le droit de te teindre les cheveux en bleu, et si ça plaît pas à ta belle-mère, on s'en cogne, tu vois. Et vraiment, faites les choses pour vous. Après, évidemment, faut que ça vous fasse vous sentir bien, parce que si tu changes de look juste pour changer de look, mais qu'en fait tu t'assumes plus dehors parce que tu sais que les gens te regardent de travers, c'est problématique aussi. Mais ouais, fais les choses pour toi et parce que ça te plaît et ne demande pas l'avis des autres parce qu'on s'en fout. Voilà.
De toute façon, ils vont te le donner, même si
tu leur demandes pas. Non, ils vont te le dire.
Merci beaucoup.
Merci
Amélie.
À toi.
J'ai passé un super moment. Et je te dis à bientôt.
Salut.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.